Le droit et nous, dans le plus de la grande matinale, avec Aliutal sur Africa Radio.
Bienvenue à tous, Black Micmac. Usurpation d'identité, faux et usage de faux, fraude aux aides sociales. C'est donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Nous avons tous une personnalité juridique qui nous distingue et détermine nos droits et nos devoirs tout au long de notre vie. Il peut arriver qu'une autre personne détourne notre identité pour nous nuire ou commettre des actes illégaux. Il arrive aussi qu'un individu s'invente une vie en falsifiant des documents pour obtenir des avantages. Ces agissements sont punis par la loi, vous le savez, et peuvent avoir de graves conséquences sur nos vies. En Europe, des immigrés en manque de titre de séjour ou d'emploi se laissent parfois tenter par des micmacs frauduleux qui peuvent coûter cher. Nous abordons ces questions pour sensibiliser sur les conséquences de ces agissements et sur les risques encourus qui parfois n'en valent pas la peine. Bonjour Aliutal.
Bonjour Phil.
Bon, c'est vrai qu'avec la météo en ce moment on peut...
Et le vélo.
Exactement. Alors, première question, pourquoi déjà le choix de cette thématique Black Micmac, usurpation d'identité, faux usage de faux, fraude aux aides sociales à Lyon?
Très bien, bonne question. D'abord, une précision, que les Micmac, ce n'est pas l'exclusivité des Blacks.
Ouais.
Voilà, même si on a connu...
Black Micmac.
On connaît Black Micmac, mais les Micmac, ce ne sont pas que les Blacks qui le font.
Ouais.
Et pourquoi nous, ce qui nous concerne? Effectivement, c'est très intéressant parce qu'on se met d'abord sur la problématique migratoire. Parce que dans certains pays européens, comme vous l'avez souligné, il y a des étrangers qui se laissent un peu aller à cela parce qu'ils sont soit en manque d'emploi.
À la facilité.
Oui, en manque de revenus. Parfois aussi la contrainte. Il y a des gens parfois qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de le faire parce qu'il faut vivre dans tous les cas. On ne l'encourage pas, mais ce sont des choix personnels. Et il y a des gens, c'est la facilité. Il y a des gens, c'est la rapidité du succès. Il y a des gens, c'est le mimétisme. L'autre a réussi plus rapidement, donc il va au village avec sa voiture, avec sa belle maison. Je me mets dans les Big Mac pour vous montrer au reste du village que moi aussi...
Je peux y arriver.
Voilà, je peux y arriver. Parfois, l'autre a réussi pendant 10 ans, vous voulez réussir avec un raccourci en 2 ans, ça peut vous laisser tenter à emprunter des voies de Micmac. Mmh. Et donc, pourquoi spécifiquement ce thème donc, nous a été inspiré effectivement par un cas de figure qui s'est passé. D'ailleurs, il y a un article que je vais publier sur ça pour donner des conseils aux gens qui nous écoutent et ceux qui peuvent les lire sur la page Aliutal Immigration. Vous verrez l'article de mai. Il y a un cas de figure, j'ai été sollicité, c'est une dame qui avait prêté sa carte vitale, sa carte d'assurance maladie à un proche qui n'avait pas encore les droits d'avoir ni la couverture maladie normale au régime normal, ni l'aide médicale d'État. Cette dame était gravement malade et c'est dans le sud de la France. Elle est partie à l'hôpital, malheureusement elle est décédée. Et elle est décédée avec la carte vitale, on a constaté son décès. Ça veut dire que la dame qui était vraiment malade ne correspond pas à la personne à qui appartient la carte vitale. Il s'en est suivi que cette personne qui a prêté sa carte vitale était juridiquement morte, avec toutes les conséquences graves que ça va entraîner. Et vraiment, cette personne m'a appelé en larmes, vraiment vers minuit, pour me dire quelles sont les
issues. C'est très dangereux de prêter sa carte vitale.
Ah oui, déjà médicalement, parce qu'en général, il y a un dossier médical. L'autre souffre de telle pathologie, la prochaine fois que vous venez, on va vous impacter les pathologies de l'autre personne qui n'a rien à voir avec votre organisme. Mmh. Il peut y avoir des conséquences au niveau médical. Il peut y avoir des incompatibilités au niveau de votre anabolisme, au niveau de votre état de santé et qui peuvent être très graves et très, vraiment très compromettants. Il y a aussi l'autre problème, c'est juridique. Ce qui nous concerne ici, c'est sur la personnalité juridique de cette dame qui est vivante, mais qui est morte.
Mais qui est morte aux yeux des autorités.
Mort-vivant. Et donc là, ça crée des conséquences au niveau de la succession, au niveau de ses droits d'appel. Mmh. Cette dame ne peut plus avoir d'appel, son contrat d'appel doit être résilié, son mariage est de facto nul.
La banque...
Parce qu'on ne peut pas continuer à épouser une personne qui est morte.
Ouais.
Donc son mari, finalement, va constater que son mariage est mort. Au niveau de la banque, elle ne peut plus avoir accès à son compte bancaire. Ouais. Cette dame ne peut plus avoir d'aide, ni travail, ni rien du tout, Elle est vraiment morte aujourd'hui. Et là, ça crée des conséquences très désastreuses. Je vais revenir sur ça pour donner des conseils à nos auditeurs et à nos lecteurs. Vous pouvez voir cet article à partir de demain avec les détails en tapant sur Facebook Aliutal Immigration. On va y revenir avec Phil, avec d'autres formes d'usurpation, comme pour nos biens, les usurpations de cartes d'identité et les fraudes financières sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va se focaliser sur effectivement l'élément que Phil a souligné, effectivement, tout ce qui concerne les usurpations d'identité.
Voilà. Justement, quelles informations et avertissements pouvez-vous donner à nos auditeurs sur l'usurpation d'identité, le faux et l'usage de faux?
Très bien. On va y aller de manière méthodique. L'objectif, c'est de donner des informations utiles à nos auditeurs pour qu'à l'avenir, quand on les accuse de ça et que ce n'est pas le cas, ils puissent comprendre quel est l'enjeu de l'accusation et aussi préventivement éviter de se mettre dans ces compromissions juridiques, dans ces infractions juridiques qui peuvent avoir des conséquences très graves. Alors parfois, on ne s'en rend même pas compte. Donc, l'usurpation d'identité consiste, selon la loi, à s'approprier délibérément. Ça veut dire que vous le savez, ce que vous faites sciemment, de l'identité d'un tiers, sans son accord. Ça veut dire que l'exemple qu'on a donné avec la dame, ce n'était pas une usurpation d'identité.
Elle a voulu rendre service.
Elle a prêté son identité. Ouais. Donc, et là, ça crée un vide juridique. Parce qu'on parle d'usurpation. Ça veut dire qu'usurper, ça veut dire que sans le consentement. Quand on usurpe, c'est comme si on vole. On n'est pas dans le cadre d'un vol d'identité. On est dans le cadre d'un prêt d'identité ou bien d'un louage d'identité. Il y a des gens qui louent leur identité. On va y revenir. Mon frère vient d'arriver ou bien un ami qui n'a pas de titre de séjour. Je le loue, mon titre de séjour. Et parfois, c'est très cher. Il gagne 1200 euros. Il doit me rétrocéder 600 euros pour continuer de travailler avec mon nom. Ça peut être très compliqué. C'est des pratiques qui arrivent, ce n'est pas de l'aide. Pour moi, c'est de l'esclavage moderne. Après, les points de vue sont divergents et des gens, ils sont contraints de le faire. Moi-même, je pourrais être contraint de le faire si je n'ai pas de revenus. Je gagne 1500 euros, la personne me loue son titre de séjour à 750 euros. Si je dois crever de faim, je vais le faire. C'est pourquoi on ne fait pas de jugement, mais on conseille aux gens, s'il y a d'autres solutions, d'emprunter ces meilleures solutions et d'éviter ce qu'on appelle la déviance, l'illégalité. Donc ça, c'est ce qu'on peut retenir d'abord de la définition. C'est un délit qui est sanctionné par la loi. Cela peut causer de sérieux préjudices à la personne dont l'identité a été usurpée, notamment lorsque l'usurpateur a commis des infractions et des délits avec l'identité de la victime. On donne l'exemple de quelqu'un qui a trafiqué, par exemple, l'identité d'immatriculation d'un véhicule et qui fait des infractions avec cela. On a connu une star, pour ne pas citer son nom, Dieu Star, une star qui s'appelle Dieu Star, et qui a prétendu avoir été victime de cela et des PV qui tombaient, alors que c'est une autre personne qui avait usurpé sa plaque d'immatriculation. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Notamment aussi, donc effectivement, il y a cet état de fait, et cela incombe surtout à vous. Ça, c'est le malheur dans ce cas de figure. La loi fait ce qu'on appelle une inversion de la charge de la preuve. C'est à vous, victime, de prouver que ce n'est pas vous qui avez utilisé votre identité pour commettre le délit.
Exact.
La charge de la preuve est inversée, donc ça vous appartient. Malheureusement, si on vole votre identité, faites très attention. Tous vos documents, soyez très jaloux de ne pas les laisser traîner quelque part. Relevé bancaire, quelqu'un peut le prendre. Et moi, j'ai failli être victime de ça. Je vois que des abonnements téléphoniques, des téléphones très chers. Alors que moi, en général, je prends des téléphones à 100 euros. Ouais. Je vois des téléphones dernier cri et beaucoup d'abonnements. Ouais. Alors que c'est parce que quelqu'un a eu la copie de mon relevé d'identité bancaire.
À l'Utah, il y a également le piratage des comptes mail. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais été réveillé au milieu de la nuit par Asalfo du groupe Magic System. Apparemment, j'étais coincé au Burkina Faso. J'avais besoin d'aide. Je n'avais plus accès à ma boîte mail. Et la personne qui avait piraté ma boîte mail à cette époque-là demandait de l'argent à tous mes correspondants pour m'aider justement à sortir de cette situation. J'avais perdu mes papiers, mes bagages et j'étais coincé à Ouagadougou alors que j'étais tranquillement à Paris.
Là, c'est un exemple très pertinent d'usurpation d'identité qui auparavant n'a pas été prise en compte carrément et clairement par la loi. D'autant plus que dans certains pays jusqu'à présent, il y a un vide juridique. On incriminalise, on sanctionne l'usurpation d'identité à travers la commission d'autres faits criminels, mais pas de manière autonome. Il en est par exemple le cas, par exemple en France, on va y revenir sur ce cas de figure. Si ça arrive, il y a une évolution de la loi depuis 2011. Ouais. On va revenir sur ça. Disons quand même que la définition qui est retenue par la loi de manière globale, surtout dans les pays francophones, c'est qu'on considère que cette usurpation est le fait de tenter ou d'utiliser l'identité d'un tiers dans la vie quotidienne ou sur les réseaux sociaux maintenant, parce que ce n'est pas que dans la vie quotidienne maintenant, attention. Ça peut être beaucoup sur les réseaux sociaux, ou de
surtout
faire usage de ces données, de ces données comme vous, Phil, en vue de porter atteinte à votre tranquillité, à votre honneur ou à votre considération. Et c'est sanctionné par la loi, parfois par une peine de prison et aussi une amende. L'exemple de la France et d'autres pays, ça peut aller jusqu'à un an de prison et des milliers d'euros donc d'amende. Une manipulation d'une identité est aussi réprimée. Quand je dis manipulation, c'est un cas de figure qui se passe beaucoup sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Le fait de publier un montage...
Des comptes fake.
Ouais. On duplique ou bien on clone le compte de Phil pour faire semblant que c'est Flynn.
C'est déjà arrivé.
Et dans le sens de nuire à Phil.
Ouais.
pour dire que regardez sa réputation. Ah, le monsieur, il montre qu'il est, il est correct, il est normal. Alors que regardez ce qu'il fait sur Facebook. Vous comprenez? Et ça, c'est très grave. C'est des choses qui arrivent. Je suis sûr que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui ont été déjà victimes de ça.
Déjà victimes, ouais.
Ou bien un montage vraisemblable de photos ou de vidéos faisant penser que c'est vous et que l'objectif est de vous nuire. Si ça vous arrive, c'est très grave. Gardez les traces. On va vous dire quels sont les moyens.
Et même surtout des personnalités politiques. Hein. Moi, j'ai été approché par l'ex-premier ministre du Gabon. J'étais assez surpris alors que son compte a été tout simplement piraté. Ce n'était pas lui qui s'exprimait et qui me parlait.
Exactement. Et là, c'est assez délicat parce que les gens, ils ne le font pas à des personnes lambda. Mmh. Ils vont le faire à des personnes qui ont une réputation, une e-réputation à préserver et pour leur nuire. Je donne par exemple les gens qui montrent quelqu'un, ils font des montages, il est en train d'embrasser une fille alors que ce n'est même pas du tout lui. Avec Photoshop, avec les nouvelles technologies, on peut prendre le corps d'Aliutal, on met la tête de fil et finalement, ça renvoie à une certaine vraisemblance. Mmh. Ça, c'est très gravement réprimé par la loi. Je disais que la loi évolue dans les pays européens maintenant pour prendre en compte spécifiquement cette infraction. On peut donner l'exemple de la France avec la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qu'on appelle notamment la loi LOPSI, qui a introduit un article spécifique dans le code pénal français, en l'occurrence L226-4-1, qui prohibe de manière claire et nette l'usurpation d'identité. Donc, vous, apprenti sorcier en informatique, qui vous amusez à faire du phishing ou à utiliser des keyloggers ou des traçages et des écoutes téléphoniques pour nuire ou faire du mal à quelqu'un, faites attention, on vous trace vous-même. Ouais. Comme l'arroseur arrosé, le pêcheur pêché. Donc faites très attention, ce n'est plus du tout à la mode une tendance qui est tolérée. Dernier élément sur ce point aussi, dire que même la réglementation internationale au niveau communautaire bouge dans des pays comme par exemple l'Union européenne. On connaît ce qu'on appelle maintenant les RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. C'est un règlement qui date du 27 avril 2016, on l'a ébauché un temps, et qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. On a fait un élément spécifique sur ce point, pour ceux qui nous ont écoutés, et qui reprend des dispositions dans plusieurs pays, pour ce qui concerne de la France, dont sa loi a été reproduite dans plusieurs pays africains. En l'occurrence, la loi du 6 janvier 1978 qui a été modifiée, qu'on appelle la loi informatique et liberté, qui a été modifiée le 12 décembre 2018, effectivement, et qui est entrée en vigueur cette loi depuis le 1er juin 2019, on peut dire que avec ces lois, le fait d'utiliser, de traiter, de collecter vos données sans votre consentement sont passibles d'usurpation d'identité. Votre nom, votre email, vos identifiants de connexion chez les prestataires de services, vos relevés d'identité bancaire ou vos identifiants pour aller vers la banque, parce que maintenant beaucoup de banques vous permettent de vous connecter pour faire fonctionner votre compte en ligne.
Exact.
Et même il y a des banques qui sont exclusivement en ligne. On ne va pas faire la publicité, on le sait que maintenant la banque se dématérialise.
Exact.
De plus en plus, on aura besoin d'identifiants. Ça veut dire qu'il y a une certaine vulnérabilité qui va se mettre en place et qu'il y a certains gens qui vont se mettre derrière l'ordinateur pour vous faire mal, et quand on touche l'argent, ça fait très mal. Donc si ça arrive, gardez toutes les traces des captures d'écran, n'hésitez pas à porter plainte. Si votre plainte fait l'objet d'un classement sans suite ou vous n'avez pas de réponse, écrivez au procureur de la République avec une lettre recommandée et avec avis de réception. Ce qu'on vous conseille strictement à faire dans tous les cas de figure.
0155 07 58 00, c'est donc le numéro d'appel, à précéder du 33 si vous nous appelez du continent. On va commencer avec ce premier auditeur. Allô, allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour.
Bonjour monsieur, vous me recevez ?
Oui, bonjour, c'est monsieur ?
C'est monsieur Dosso.
Monsieur Dosso, nous vous écoutons.
Bonjour monsieur Dosso.
Oui, bonjour monsieur. Monsieur Aliutal, maître Aliutal.
Oui, monsieur Aliutal, oui. Merci, monsieur Dessau. Oui. Alors, oui, dites-nous votre question.
Oui, la dernière fois, j'avais appelé, mais on ne s'est pas eu. En fait, ma question, je la reprends. J'avais deux filles qui ont été reconnues réfugiées. Je ne sais pas si on peut traiter ça aujourd'hui ou pas.
Ça sort un peu du propos, mais dites-nous d'abord, après on nette ça, s'il n'y a pas d'autres auditeurs, après on va y revenir, comme on s'est raté la dernière fois. Dites-nous.
D'accord, j'avais deux filles qui ont été reconnues réfugiées. Et alors, au niveau de l'OFRA, on nous a donné un document qui stipulait qu'on avait droit à une carte de résident. Et on arrive en préfecture. La préfecture nous donne une carte de 1 an. Alors que si je comprends bien, la carte de résident, c'est une carte de 10 ans.
C'est le cas, oui.
Voilà, j'ai demandé à la préfecture, j'ai dit, mais je ne comprends pas, il y a l'OFRA qui demande à ce qu'on nous donne une carte de résident. Vous nous donnez une carte de 1 an, vraiment, je ne comprends pas. La dame qui était là-bas ce jour-là, elle n'a pas voulu m'expliquer quoi que ce soit. Et depuis, c'est la même chose.
C'est la même chose, donc, ça veut dire que la carte de 1 an a été renouvelée ou bien elle n'a pas encore expiré, la première carte?
Oui, elle n'a pas encore expiré.
D'accord.
Voilà. Donc vraiment, maître, je ne comprends plus rien. Pourtant, il y a des personnes avec qui j'étais dans le même cas. Et aujourd'hui, on a la carte de résident. Moi, je n'ai pas. Ma femme et moi, on n'a pas.
D'accord. Est-ce que dans la décision de l'OFRA qui vous a accordé le droit d'asile, il est bien marqué qu'on vous donne le statut de réfugié?
Oui, oui, carte de résident.
Bien marqué carte de résident, statut de réfugié, donc c'est carte de résident. Si c'est la protection subsidiaire qu'on vous a donnée, ce n'est pas marqué protection subsidiaire?
Non, 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 non. Ce n'est pas marqué pour... C'est bien marqué blanc sur noir, une carte de résident. Monsieur Dosso a droit à une carte de résident.
Très bien. Donc là, il y a une irrégularité. Donc ce qu'il faut faire, si vous êtes parti et qu'on ne vous a pas donné gain de cause, il faudra écrire au préfet carrément. Vous pouvez même le faire nominativement pour dire qu'il y a un dysfonctionnement. Parce que là, quand l'OFRA décide, c'est une loi. Ça veut dire, c'est comme une loi, ça veut dire la préfecture ne peut pas refuser, ne peut pas rétrograder. La préfecture ne s'occupe pas du droit d'asile. La préfecture va s'occuper maintenant du droit au séjour. Votre droit d'asile ne sera jamais reconnu par la préfecture, sinon il y aurait une confusion de compétences. Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de décider si vous en avez droit ou pas. Si l'OFRA disait non, ce serait la Cour nationale du droit d'asile. Si ces deux instances disent oui, la préfecture n'a pas son mot à dire. Ce n'est même pas une compétence liée. Elle doit vous donner la carte qui vous a été accordée. Si c'est une carte de résident, vous avez droit à une carte de résident. Elle ne peut pas rétro-pédaler parce qu'elle n'a jamais pédalé. C'est l'OFRA qui avait pédalé. Même l'OFRA ne peut pas rétro-pédaler par rapport à cela. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'écrire un courrier carrément pour dire qu'il y a un dysfonctionnement et de demander au préfet lui-même de vous donner la communication de la motivation de cette décision qui, en lieu et place d'une carte de résident, vous accorde une carte dont la précarité est là. Ça ne vous permet pas effectivement d'avoir une intégration facile. Ça, il faut le dire. Et donc, c'est ce qu'il faut écrire dans votre courrier. Et s'il y a lieu, vous gardez la carte quand même et vous faites un recours devant le tribunal administratif qui nécessairement vous donnera gain de cause. D'accord ?
Voilà. Merci beaucoup, M. Dosso. On ne peut pas vous garder plus longtemps. Nous avons beaucoup d'appels et nous allons revenir surtout sur la thématique qui vous attend, hein, auditeurs de la radio africaine. On parle donc de Black Micmac, d'usurpation d'identité, faux et usage de faux, fraude aux aides sociales.
C'est et
donc...
je file aussi pour dire aux auditeurs, s'ils ont des cas de figure, n'hésitez pas à nous appeler pour nous faire des témoignages, parce que si vous êtes victime, vous avez été victime, ou bien quelqu'un dans votre entourage a été victime, donc d'usurpation d'identité, ou bien même s'est mêlé à ça et a eu des complications au niveau pénal, on peut donner des conseils, que ce soit donc votre titre de séjour, votre permis de conduire, vos plaques d'immatriculation, tout ça, ce sont des usurpations d'identité qui peuvent avoir des conséquences très, très dangereuses.
Allô, allô, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour, c'est monsieur.
Monsieur Diaby.
Monsieur Diaby, nous vous écoutons.
Bonjour, bonjour monsieur Diaby.
Bonjour, monsieur Ali Outal.
Bonjour, monsieur Diaby.
Excusez-moi, en fait, je voudrais vous demander, je ne sais pas, comme le sujet d'aujourd'hui, ça n'avait pas parti, je ne sais pas, c'est ma nièce qui a un problème avec son père. Son père, il a fait venir ici l'âge de 1 an. Elle a vécu avec son père pendant 15 ans. Elle était en lycée. Donc, son père, en 2015, son père, il a décidé de la renvoyer au pays. Bon, toujours, elle a continué son étude. Aujourd'hui, elle doit aller à l'université. Maintenant, la fille a décidé de revenir ici pour continuer son étude. Maintenant, son père, il a décidé de confisquer toute son pièce d'identité. Son père, il ne voulait pas qu'elle vienne ici, sa mère non plus. Donc moi, la fille, elle m'a appelé de l'expliquer. J'ai essayé de voir son père pour l'expliquer, mais son père ne voulait pas. Sa mère aussi, elle ne voulait pas. Maintenant, je vous appelle pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais faire pour elle ou si elle a quelque démarche à faire ici. Parce qu'elle a une situation très, très compliquée. Aujourd'hui, elle est âgée de 19 ans. Sa situation est très compliquée. Elle n'a aucune aide familiale au pays. Et puis, toute la famille a détesté. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. J'ai même demandé son père ici. Son père, il n'a pas de réponse. Pourquoi il a confisqué les pièces d'identité de la fille pour que la fille, elle vienne ici pour continuer son étude.
D'accord.
Aujourd'hui, il est l'âge de 19 ans. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour ça, monsieur?
D'accord. Pour l'instant, on va continuer le propos. Il faut rester dans le propos et accessoirement, on va finir. Quand on finit, on va revenir sur cela. D'accord. Sinon, la semaine prochaine, on avait promis de revenir sur les possibilités pour les personnes qui étaient victimes d'excision en France ou bien dans notre pays européen. On va regrouper cela. Votre question, j'ai bien noté ce que vous posez comme interrogation et comme inquiétude. On va y revenir. On va continuer quand même sur la question de Phil, rapidement, avant de reprendre les auditeurs qui vont rester dans le propos. Donc, essayons de rester dans le propos. Effectivement, on va traiter toutes ces questions-là, mais en fonction donc, du temps qui sera disponible. On peut dire aussi que par rapport au faux et à l'usage de faux, Phil, avant de donner la parole à un autre auditeur, donc il y a le faux, on a parlé de l'usurpation d'identité, il y a aussi le faux et l'usage de faux. C'est quoi un faux, Phil, selon vous, quand on dit que c'est faux? C'est le contraire
c'est
tout, de
c'est le contraire de la vérité.
Très, vous avez tout défini, effectivement.
Tout simplement.
C'est ainsi que la loi définit donc le faux en matière de documents officiels ou authentiques. C'est une altération de la vérité qu'on vous dit qui cause un préjudice à autrui. Et ainsi, ça a été défini donc, par exemple dans le Code pénal français par les articles 441-1 du suivant, qui disent que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et qui est accompli par quelque moyen que ce soit, ça veut dire quel que soit le médium du faux, c'est un faux. Dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, ça peut être sur Internet, ça peut être par le téléphone, ça peut être par WhatsApp, par tous les moyens, et qui aurait pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux peut être matériel ou moral. Il est matériel quand il porte sur un support physique ou numérique. Quand vous affirmez des choses contraires à la vérité, qui ne vous concerne pas et qui cause un tort à autrui, vous commettez un cause moral. Vous déclarez par exemple, ah oui, à la personne, oui, prêtez-moi 10 000 euros, moi j'ai 4 immeubles à Yopougon, vous savez, je vais vous ramasser alors que vous avez juste là-bas une chambre là-bas. Comprenez, vous déclarez, vous faites du faux moral. Ça peut avoir des conséquences pour autrui et vous pouvez l'induire en erreur. C'est pas comme l'erreur qu'on avait traité, l'erreur tolérable, ce qu'on appelle le dol. On provoque quelqu'un, on provoque une erreur pour inciter quelqu'un à nous prêter ou à contracter. S'il s'agit d'arrondir les angles gentiment, ce n'est pas pénalement, ce qu'on appelle le bon dol. Je dis à Phil, vous voyez ce stylo-là, normalement il coûte 1 euro. Michael Jackson, il avait le même stylo. Ça se ressemble et ça fait un stylo collector. Et psychologiquement, vous l'achetez à 5 euros. Ce n'est pas mentir ça. Ce n'est pas faire du faux. Ce n'est pas un faux moral. C'est quand il y a une exagération vraiment claire entre la réalité et ce que vous prétendez, entre le faux et le vrai. Et donc, qu'est-ce qui est l'usage de faux? C'est là où ça devient compliqué. C'est le fait d'utiliser sciemment un document falsifié pour en tirer indûment des avantages qu'aurait permis le document authentique. Exemple, un faux diplôme, il y a des gens qui le font.
Ouais.
Un faux certificat de formation. Je donne un exemple, quelqu'un qui a besoin d'ouvrir un salon de coiffure quelque part. La personne a appris la coiffure depuis longtemps, pas besoin de certificat.
Est-ce qu'on peut considérer des arrêts maladie à répétition?
Ah oui, même pas à répétition. Quand c'est à répétition, c'est très grave, on va y revenir. Une seule fois, c'est déjà incriminé, mais à répétition, c'est plus grave. On considère cela comme une circonstance aggravante. Mais je donne l'exemple.
Avec la complicité de certains médecins.
Et ces médecins-là sont gravement plus incriminés. Parce que le médecin, c'est comme un faux en écriture publique.
Ouais.
Donc là, ça peut même aller jusqu'aux assises. Là, il faut faire très attention quand c'est un médecin qui le fait, un policier qui veut faire une attestation, un médecin, un huissier. Il y en a qui vont corrompre des huissiers. Par exemple, un bailleur qui va corrompre son huissier pour évacuer son locataire qu'il ne veut plus. Là, le huissier est presque 15 ans de prison. C'est des assises, ça. C'est du faux en écriture publique. C'est très grave. Donc, je vous donne l'exemple, par exemple, de ces personnes qui peuvent avoir besoin de certificats, de diplômes pour pouvoir ouvrir un commerce, un salon de coiffure, ainsi de suite. Il faut faire très attention. Un certificat médical, par exemple, les arrêts maladie, il faut faire très attention. Ça aussi, c'est réprimé par la loi. Et quand le faux imite un document public, la sanction est plus sévère, comme on l'a dit. Permis de conduire. Il y a des gens qui font des faux permis de conduire. Tant qu'on ne vous attrape pas, vous pensez que c'est l'Eldorado.
Ouais,
un avis d'impôt falsifié. Vous gagnez 4 000 euros, vous mettez dedans 2 000 euros pour avoir des minima sociaux. Ça peut être très grave. Un titre de séjour. On sait bien qu'il y a des gens, par exemple, dans certains pays européens, sont prêts à acheter des titres de séjour. On ne juge pas sur l'opportunité. Parfois, les gens se sentent contraints de le faire. Mais la personne qui est dans ce micmac-là, comme on disait, Black micmac, la personne peut risquer gros. Vous-même, l'utilisateur final, vous risquez moins. Parce que la finalité, c'est juste de travailler, d'autant plus que nous, on a fait le combat. Pendant le comité interministériel, les comités interministériels, pour lesquels j'ai participé au temps du gouvernement de Nicolas Sarkozy, on avait dit que l'utilisateur final, lui, il ne cherche pas de compromettre la loi, il cherche à travailler. Et donc, si on empêchait ces personnes d'être régularisées parce qu'ils ont utilisé un faux, finalement, tous nos cousins là, d'Afrique de l'Ouest, là, on ne va pas les régulariser.
Ouais.
Ce qui fait que finalement, on peut régulariser quelqu'un qui, tant bien qu'il a utilisé le faux document ou un document d'emprunt, s'il prouve que c'est lui-même, ce qu'on appelle l'attestation de concordance avec l'utilisation d'un nom d'emprunt travaillé sous alias, on peut être régularisé.
Alors,
ça veut dire c'est une tolérance de la loi par rapport à l'utilisateur final.
Est-ce que le système n'est pas un peu responsable aussi de l'augmentation de ces usurpations?
Je ne sais pas si le système est responsable. En tout cas, quand la loi dit que c'est interdit, normalement...
Des personnes qui se retrouvent contraintes de faire certaines choses alors que, au départ, ne voudraient pas le faire.
Oui, mais après, on peut entrer dans ce chemin, c'est justifier toutes les infractions de la loi. parfois, on doit l'assumer. Mmh. Moi, je dis parfois, certaines choses, je peux les faire et je les assume. Je ne vais pas dire que c'est le système, c'est moi, mais je l'assume. Si je manquais de l'argent, je n'ai pas de quoi manger, je dois envoyer de l'argent au pays, je vais acheter un faux document, je l'aurais fait et je l'aurais assumé. C'est ça, il faut assumer, il ne faut pas dire que le mal, c'est l'autre. Mmh. On assume, il y a des gens, ils le font, ils l'assument. Ils en ont besoin et les gens le savent. Le problème, c'est que, je donne un exemple, dans un quartier chic de Paris, que je connais bien, le 16e arrondissement, où les gens, en général, votent à droite et parfois même à l'extrême droite. Mmh. Et ces gens-là, ils disent que ouais, les immigrés, ils veulent la loi, ils prennent les boulots, tout ça. Là. Mais ces gens emploient globalement des gens qui sont sans papier.
Exact.
Des femmes qui viennent des Philippines, des femmes qui viennent d'Afrique, des femmes qui viennent du Maghreb. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ce qu'ils disent, ils n'y croient pas du tout.
Ouais. Et donc, des hommes politiques même, d'ailleurs.
Ah, quand je dis déjà important, ça veut dire que forcément plus que des hommes politiques même.
Ouais.
Donc finalement, il y a un leurre. Donc le système, il est comme ça. Chacun va faire ce qu'il doit faire et chacun doit quand même l'assumer. C'est juste à ce niveau-là. Mais attention, comme on l'a dit, le seul fait de détenir le faux, l'usage du faux, c'est un délit. Mais le seul fait de le détenir aussi, c'est réprimé.
Ouais.
Ça veut dire que vous avez un faux titre de séjour dans votre cahier, dans votre carnet, dans votre sac. On vous contrôle. On voit que vous avez un faux titre de séjour. Le fait de le détenir et vous ne l'avez pas encore utilisé, là, c'est un problème.
Bah oui.
On visite chez vous en cas de contrôle pour autre chose. On trouve de faux documents, même si vous ne les utilisez pas. Hein, ça, c'est un problème. Donc, si en cas de contrôle, on trouve chez vous un faux permis, un faux titre de séjour, une fausse carte vitale, vous risquez une sanction. Pour ceux qui sont en France, attendez-vous à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Ça veut dire que la peine est très sévère et donc ce n'est pas forcément quelque chose à utiliser.
On va donner à présent la parole à quelques auditeurs. Vous êtes nombreux à nous appeler. Allô, allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, c'est monsieur.
C'est monsieur Conné,
nous vous écoutons.
Ouais, en fait, monsieur Aluta, il a répondu à la première question que je voulais poser, mais j'ai une seconde.
Allez-y.
En fait, moi, je voulais savoir, depuis tout à l'heure, il a dit que quand on usurpation d'identité, moi, je ne peux pas ça. Parce que quand aujourd'hui, quand on va chercher du boulot, l'employeur, il est conscient que ce n'est pas la personne qui est en face.
Mmh.
Et là, on est obligé de taffer avec. Mais là, comme il dit souvent, on a des documents qui sont dans nos sacs. Ça dit que, comme on nous dit souvent, la carte professionnelle et autres, tu es obligé de l'avoir quand tu vas sur certains sites.
Mmh.
Mais, donc, bon, toi, ta physique personnelle n'a rien à y voir dessus parce que tu n'as pas de photo, tu n'as rien là-dessus. C'est le nom de la personne et toute de cette personne. Et c'est condamnable ou pas?
Je n'ai pas compris, monsieur. Vous parlez, répétez la dernière partie. Ça veut dire
en fait, ma question, c'est lorsqu'on bosse avec les documents de quelqu'un, et quand on les a su, soit, mais la photo, elle n'est pas de la personne, c'est-à-dire que ces gens, ils en prennent, mais votre image, elle n'est pas là-dessus. Je me demande si elle est condamnable ou pas.
C'est l'image de la personne à qui appartient le document. C'est ça que vous dites, hein?
Oui.
Non, ça, c'est pas pour l'instant, vous ne l'avez pas utilisé, c'est pas du faux. Parce que comme si votre cousin peut vous donner votre document. À ce niveau-là, il faudra qu'on vous trouve en train de l'utiliser, par exemple, chez votre employeur. L'inspection du travail vient, on trouve que le document que vous avez donné et qui est censé être le vôtre est le document de quelqu'un d'autre, de Phil le Montagnard. Là, effectivement, ça cause un problème, vous comprenez?
Ça va être difficile.
Mais votre question est très intéressante, monsieur. Sa question est très intéressante. Là, n'ayez pas peur, parce que si vous gardez le document de votre frère, de votre ami, on le trouve chez vous, même en cas de contrôle, vous ne l'avez pas encore utilisé. Par contre, si vous dites, monsieur, votre titre de séjour et vous donnez le titre de séjour de votre cousin, là, vous l'avez utilisé. Là, vous l'utilisez. Parce que si le policier détecte que, malgré les ressemblances, ce n'est pas vous, vous n'avez pas le même nez ni les mêmes oreilles, là, effectivement, vous pouvez avoir un problème. Mais le seul fait de l'avoir chez vous, effectivement, vous ne l'avez pas encore utilisé. Ça, ce n'est pas du faux, c'est un vrai document. Par contre, si c'était un faux document chez vous, avec votre photo, la question serait différente et la réponse serait pénalement donc une sanction.
Bon, j'aurais une dernière question.
Allez-y rapidement.
En fait, ma question, c'est, aujourd'hui, moi, j'ai même rendez-vous avec vous le 3, parce que j'ai appelé votre assistante la dernière fois et j'ai pris rendez-vous pour le 3, j'ai pas encore eu l'adresse. Mais ma question, c'est, aujourd'hui, moi, je suis dans une situation de 10 ans de présence et on me demande des contrats d'embauche. Alors qu'ils en sont conscients que je ne pourrais pas l'avoir. Si je dois l'avoir, je dois faire un faux.
Vous avez 10 ans de présence et on vous demande un contrat de travail?
Ouais.
Hmm?
Oui.
D'accord. Donc, on va vous donner une réponse, donc, globalement, le temps que vous passez à l'association. Mais on vous dit, pour l'instant, par rapport à cela, vous, si vous avez prouvé que vous avez 10 ans en France, normalement, avant Nicolas Sarkozy, si vous les prouvez année par année, votre régularisation est acquise de facto. Ça veut dire de plein droit. Okay. Maintenant, Nicolas Sarkozy, en tant que ministre de l'Intérieur, a enlevé cette automaticité. On dit maintenant que c'est au cas par cas. Il vous appartient, vous, de prouver votre présence. C'est ce qui vous incombe. L'administration peut vérifier si ces présences sont effectives. Si les preuves que vous donnez sont des vraies preuves, ce n'est pas des faux, des usages de faux. Comme par exemple des certificats qui sont faits à Barbès, des preuves qu'on achète à 5 euros pièce ou bien 10 euros pièce. Avant, ça existait, vous savez. Donc si c'est des vraies preuves, normalement, c'est ce qui est probablement votre cas, effectivement, on n'a pas à vous demander le contrat de travail. On n'a pas vous demandé le contrat de travail. La loi ne dit pas que vous devez prouver que vous avez un contrat de travail. La loi dit que l'article L313-14 du Code des étrangers dit que vous devez prouver votre présence effective de manière habituelle, ça veut dire sans titre de séjour, sur le territoire français pendant 10 ans. Et à ce titre, une information qui vous concerne, qui peut concerner d'autres personnes, on ne peut pas, le préfet ne peut pas refuser votre document sans pour autant vous donner préalablement un récépissé. Or, on voit beaucoup de gens qui ont fait 10 ans, qui ont fait des demandes de titre de séjour, qui ont eu des rejets sans jamais avoir été mis à disposition d'un récépissé. Donc là, il faut le soulever à votre avocat qui va faire un recours. Mieux encore, vous devez prendre la précaution de demander au préfet, si vous sentez que ça n'aboutit pas, on ne vous donne pas de récépissé et que le temps passe, écrivez un courrier pour demander à ce qu'on vous convoque devant la commission du titre de séjour. C'est une obligation légale. Le préfet ne peut jamais, normalement, dire non sans soumettre votre dossier à une commission de titre de séjour. Parce que c'est une condition sine qua non. L'avis de cette commission ne lie pas le préfet, mais le préfet est obligé de saisir cette commission. Et la saisine de cette commission entraîne la délivrance d'un récépissé. Ça, c'est un schéma qu'il faut garder en tête pour toutes les personnes qui ont fait 10 ans ici en France. Et dans le cadre de la loi, il n'est pas exigé un contrat de travail.
Voilà. Merci beaucoup pour votre appel.
Oui, monsieur Poulares, on va y revenir. On va y revenir. Si vous avez besoin, donc on vous verra. Pour les études spécifiques à votre dossier, à votre situation, on peut vous recevoir au niveau de la société.
Voilà, rapprochez-vous de l'association. D'ailleurs, je donne le numéro de téléphone pour des rendez-vous, hein, 06 16 05 45 51. Vous envoyez donc un SMS avec votre nom et prénom, 06 16 05 45 51.
Et précisez aussi que pour les personnes qui veulent s'inscrire, parce qu'on va traiter ces questions à l'afterwork qu'on va organiser un samedi, le samedi 14 et le 21.
Samedi 14 décembre.
Et 21, parce que pourquoi samedi et 21 ? D'ailleurs, merci aux auditeurs qui se sont inscrits massivement.
Massivement, oui.
Massivement, vraiment, on est obligé de faire deux dates pour que tout le monde soit reçu. Donc, vous pouvez envoyer un SMS pour dire que Africa Radio, vous voulez vous inscrire. Avec l'association Radio, en partenariat avec la mairie de Paris et Africa Radio, vont organiser cela. C'est un événement gratuit, tout est bénévole et on va traiter toutes ces questions-là. Donc, c'est l'occasion de venir poser toutes ces questions en direct. Préalablement, l'inscription est obligatoire. C'est pour maîtriser. Si on ne l'avait pas fait, on aurait, par exemple, plus de 100 personnes dans une salle de 70 personnes.
Ouais.
Et donc, les inscriptions nous ont permis de voir qu'on a le double de la capacité de la salle déjà. Continuez à vous inscrire. On aura des échanges très utiles. Et mieux encore, ces questions qu'on est en train de traiter, il y aura une simulation théâtrale des bénévoles qui vont les jouer pour qu'on soit dans un cas de figure réel. Et suite à cela, je vais venir sur l'aspect juridique avec les échanges qu'on va avoir. Ce sera très intéressant.
Je reprends le numéro pour les inscriptions, 06 16 05 45 51. Vous envoyez donc un SMS. Alors, Aliutal, avant de se quitter, il nous reste moins de 6 minutes. Qu'en est-il des fraudes aux prestations sociales ? Quelles sont les sanctions encourues ?
Question très délicate, hein, mais qu'il faut traiter aussi. Hein.
Il y a beaucoup
quand
de fraudes.
Quand on aime son frère, il faut lui dire la vérité avant de le protéger. Il ne faut pas caresser dans le sens du poil pour dire que tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Il y a des dégâts, il y a des péripéties qui existent. Il faut les appréhender pour que les gens puissent savoir quel est le quantum des risques et que chacun puisse prendre sa décision et l'assumer.
Exact.
Donc, à ce niveau, il y a des escroqueries, il faut le dire, des supercheries et de l'arnaque à la sécurité sociale pour obtenir des avantages, des aides, des minima sociaux illégalement ou illégitimement octroyés. On n'est pas concerné quand on est de bonne foi, par contre. Il peut y avoir qu'on pense qu'on a droit à ces aides comme une allocation au logement, une allocation familiale, un droit au chômage, alors qu'on ne l'a plus. Ou bien qu'on a oublié de bonne foi de communiquer à l'administration un changement dans sa situation personnelle. J'ai vu des gens qui ont été sanctionnés par la CAF parce que ces personnes ont oublié de manifester qu'il y a un changement, alors qu'ils étaient de bonne foi. Non seulement il y a la sanction, c'est qu'on annule vos droits, vous devez restituer et il peut y avoir une sanction pénale.
Alors pour nos auditeurs sur le continent, hein, la CAF, c'est la Caisse,
d'allocation familiale. Mais ça existe au pays aussi, dans plusieurs pays. Depuis enfant, j'entendais ça dans nos pays.
Ouais.
Ça existe, c'est le même système en fait qui a été reproduit. L'administration française, par exemple, dans tous les pays francophones, a quelque part reproduit le même schéma administratif, c'est les mêmes administrations. Après, effectivement, les droits ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que ce qu'on peut avoir comme aide dans un pays développé, ce ne sera pas les mêmes aides dans un pays où on vous donne peut-être 5000 francs CFA par enfant. Donc, effectivement, je disais que la fraude en droit ne se présume pas. Elle doit se prouver. Dans tous les cas de figure, on ne peut pas vous sanctionner en présumant que vous avez fraudé. Or, j'ai vu des décisions où des organismes comme les caisses d'allocation familiale ou les caisses de chômage vous accusent, présument que vous êtes un coupable, alors que ça ne se présume pas. C'est à eux de le prouver, ce n'est pas à vous de prouver. Donc effectivement, si ça vous arrive, faites très attention et écrivez un courrier. En France, par exemple, on estime que la fraude aux prestations coûte des centaines de millions d'euros. On a cité jusqu'à 350 millions d'euros de fraude.
De fraude.
Cette fraude peut concerner l'assurance maladie, les allocations chômage, comme on l'a dit, les allocations familiales et les pensions de retraite. Ça peut être le crédit d'impôt. On diminue carrément ce qu'on a gagné pour bénéficier d'un crédit d'impôt, que ce soit à titre personnel ou dans le cadre d'une entreprise. Les aides à l'insertion sociale ou professionnelle et même l'aide juridictionnelle. Les usagers en sont très souvent les auteurs, mais il y a aussi des professionnels qui peuvent en être responsables, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça peut être des facturations frauduleuses ou exagérées. Le médecin qui vous donne des rendez-vous à ne pas finir pour travailler sur vous alors que vous n'êtes plus malade. Parce que vous avez l'aide médicale ou bien la sécurité sociale, ça le fait travailler. Et il faut revenir, mon frère, reviens. Il faut bien te soigner. Alors que monsieur est guéri ou madame est guéri. Là, il faut faire très attention, ne pas être coupable de ces genres de considérations. Donc, quand la consultation est inutilement réitérée, il faut faire attention. Ou même des consultations fictives. On a vu des cas de figure où des professionnels ont fait des consultations fictives des médecins et que la personne n'a jamais été là. Donc, pour se nourrir sur la sécurité sociale et donc un peu affecter les caisses publiques. Ça peut être très compliqué. Il est aussi important de souligner que c'est moins grave de mentir sur sa situation que d'utiliser de faux documents. Les peines sont moins graves. Ça veut dire que quand on ment sur sa situation, ouais, finalement, je ne suis plus au chômage, c'est moins grave que de créer un document. Le faux et l'usage de faux, là, c'est actif. Alors que là, c'est passif. C'est comme mentir et faire une rétention d'informations. La rétention, elle est passive. Le fait de mentir expressément, d'autant plus que quand on crée, on fait plus que mentir. On acte le mensonge et là, ça devient plus grave. Il faut faire très attention à ce niveau. En plus des sanctions pénales, les organismes de sécurité sociale peuvent vous infliger des sanctions. Et ça peut être des sanctions où vous devez rembourser et ils peuvent transférer votre dossier au procureur. Et là, ça peut créer des conséquences très désastreuses en ce qui vous concerne. Donc, ce qu'on pouvait dire sur les Micmac, que dans notre communauté, pourquoi on a dit black, mais il y a d'autres Micmac, je donne un exemple, des Micmac que je connais, hein, pas entre les pratiquants, je ne suis pas millionnaire, des millionnaires qui devraient payer d'impôts, mais en tant que juriste d'affaires, et je vois qu'ils font tout pour ne pas payer d'impôts. Alors que c'est des gens qui devraient payer 50 000 euros. Alors, ils trouvent des affectations sur l'assiette fiscale, l'assiette comptable pour ne pas payer. C'est plus grave, excuse-moi Phil, c'est important, ça me passionne parce que ça, c'est plus grave que la personne qui cherche un papier quand même. Et on n'en parle pas beaucoup. Donc les Micmac white, ça existe.
Alors il y a justement aussi, on n'a peut-être pas souligné cela, il nous reste à moins de deux minutes, le transfert d'argent, hein, il m'est arrivé aussi il y a quelques années, hein, voilà, on vous envoie de l'argent en Côte d'Ivoire par exemple et quelqu'un a récupéré l'argent à votre place.
Effectivement, donc tout ce qui est transfert, maintenant numérique ou par télématique, les transferts en ligne, les transferts d'argent, les transferts depuis un compte et même les partages d'argent comme ça s'est développé en Afrique, il y a des fraudes. Il peut aussi y avoir des fraudes depuis votre compte bancaire de plus en plus. Et ça, effectivement, c'est une usurpation. On va y revenir. Tout ce qui est usurpation de données bancaires, usurpation de cartes bancaires. Parfois, vous voyez vos relevés, vous voyez un débit que vous n'avez jamais fait. Ouais. Quelles sont les possibilités légales pour vous faire rembourser par la banque et pour faire sanctionner le coupable? Ce sont des éléments sur lesquels, Phil, on va revenir.
Voilà, Black Micmac, usurpation d'identité, faux et usage de faux, fraude aux aides sociales. Nous allons aborder la deuxième partie donc la semaine prochaine. N'hésitez hein, surtout pas, si vous avez déjà des questions, à nous laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio au 01 55 07 58 05, précédé du 33 si vous nous appelez du continent. Et on rappelle également les 14 et 21 décembre prochains, donc l'afterwork que nous organisons, donc n'hésitez surtout pas à laisser, à vous inscrire au 06 16 05 45 51 06 16 05 45 51
Le droit est nous, dans le plus de la grande matinale sur Africa Radio.